mécanique du journalisme.
Ben Barka,
un des chefs de l'opposition marocaine enlevé, je vous le rappelle, vendredi dernier à Paris.
Rainbow Warrior,
ayant coulé à la suite de deux explosions sans doute d'origine criminelle.
Clearstream,
une société soupçonnée de dissimuler l'argent de la corruption.
Cahuzac, LuxLeaks, Fillon, Benalla. Certaines enquêtes ont révélé des affaires d'État et déstabilisé le pouvoir.
Cette crise sans précédent plus au sommet de l'État.
Des hommes politiques ont chuté, des lois ont changé. Des journalistes ont révélé ce qui devait à tout prix être dissimulé.
Le président est en garde vue depuis hier matin.
Comment travaillent ceux qui cherchent ?
À son domicile, il est...
Comment trouvent-ils l'information ? Comment la vérifient-ils ? Comment protègent-ils leurs sources ? Mécanique du journalisme, de LuxLeaks aux Panama Papers, une enquête sur l'évasion fiscale du journaliste Édouard Perrin pour l'émission de France 2 Cash Investigation.
Alors, je m'appelle Édouard Perrin, j'ai 49 ans et depuis maintenant bientôt 10 ans, je travaille pour l'agence de presse Première Ligne qui fait des documentaires d'enquête à la télévision. J'ai travaillé pendant 8 ans pour l'émission Cash Investigation qu'on produit. Et ce sont les créateurs de Cash, Laurent Richard, Luc Herman, le producteur, et Élise Lucet, qui m'ont demandé si j'étais intéressé de travailler sur l'évasion fiscale. J'avais jamais travaillé sur ce domaine-là avant. J'ai dit banco, très très vite, et c'est comme ça que l'aventure est partie.
Élise Lucet, Cash Investigation.
Bonsoir, vous aimez le monde merveilleux des affaires, vous allez adorer les enquêtes de Cash. Ce que nous allons vous révéler ce soir est sans aucun doute un des secrets les mieux gardés par les multinationales, un secret qui permet aux grandes entreprises de payer le moins d'impôts possible sans que personne ne s'en aperçoive.
Premier épisode, le Luxembourg, un pays très arrangeant.
Très vite, on m'a indiqué que le Luxembourg, c'était quand même très pratique, parce que c'était au cœur de l'Europe, que ça donnait un passeport européen aux entreprises, qui avaient une certaine expertise financière là-bas, et que c'était de ce côté-là qu'il fallait se pencher. Donc j'avais un pays. Ensuite, on m'a dit, le Luxembourg accorde des passe-droits fiscaux aux entreprises. J'ai appris, le terme utilisé pour ces passe-droits, c'était des rulings. C'est un terme anglais, ce sont des accords fiscaux anticipés. J'ai ensuite appris que la personne de l'administration fiscale luxembourgeoise qui signait par dizaines ses rulings chaque semaine s'appelait Monsieur Cole, qu'il travaillait au bureau numéro 6 de l'administration fiscale des impôts. Et un jour, je suis tombé sur un commentaire d'une personne sur un blog d'économie hébergé par Libération. Et sous un article du blog, un commentaire d'une personne qui parlait des rulings au Luxembourg, établis de manière industrielle. Et la personne parlait d'un monsieur K qui signait ses rulings et terminait son message en disant « J'ai tous les documents pour le prouver ». Les termes employés par la personne dans ce message étaient extrêmement précis. C'était pas un farfelu, c'était quelqu'un qui savait exactement de quoi il parlait et cette personne semblait prête à partager ou à communiquer. En tout cas, elle avait fait la démarche de l'évoquer. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Antoine Deltour. Malheureusement, je n'ai plus aucun problème à révéler ma source puisqu'elle a été grillée, quoi.
À l'époque, Antoine Deltour travaille pour un très gros cabinet d'audit luxembourgeois, le cabinet PricewaterhouseCoopers.
Antoine Deltour était auditeur junior, donc il sortait d'école de commerce et c'était un très beau poste de début de carrière. Vous allez auditer des entreprises pour le compte d'un cabinet d'audit, quoi. Et lui, c'est dans le cadre de ce travail d'auditeur qu'il a commencé à se rendre compte de la réalité du travail de son cabinet, mais également de la réalité ou de l'absence plutôt de réalité des sociétés qu'il était censé auditer sur place, puisque la plupart des sociétés sur place n'étaient que des coquilles vides ou des structures destinées à faire apparaître une activité fictive pour d'autres entreprises au Luxembourg, histoire d'y faire passer de l'argent, quoi.
Mon métier, c'était
de
participer à des missions de commissariat aux comptes, de certification des comptes annuels des entreprises. Et ces entreprises, au Luxembourg, avaient une présence essentiellement artificielle et à des fins fiscales. Et donc, je ne trouvais pas d'utilité sociale dans cet emploi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter ce travail.
Antoine Deltour, que je suis allé rencontrer en Lorraine, là où il habitait. Il était en formation pour devenir statisticien à l'INSEE. ne travaillait déjà plus pour le cabinet PricewaterhouseCoopers. Et après une après-midi ensemble, je suis revenu avec 4 gigas dans mon disque dur et un peu plus de 300 accords fiscaux à étudier, quoi. Et ça, c'est septembre 2011.
47 000 pages de documents ultra confidentiels. Les noms de centaines d'entreprises, des géants de l'automobile, du luxe, de l'agroalimentaire, accompagnés de schémas tous plus compliqués les uns que les autres. Tous ces montages financiers ont été créés par le cabinet d'experts comptables PricewaterhouseCoopers, au Luxembourg.
Je me souviens de montages qui faisaient quasiment 25 pages, tellement il y avait d'étapes, tellement les enjeux étaient colossaux. Il y avait, par exemple, des très grandes multinationales qui restructuraient la totalité de leurs opérations dans le monde, et donc il y avait forcément des étapes au Luxembourg. Je connaissais le caractère ultra sensible de ces documents, ça c'était sûr, mais il fallait pouvoir les décrypter et ensuite les raconter. Et ça a été très difficile de trouver quelqu'un à la fois qui ait l'expertise pour le faire, pour m'aider, et qui soit de confiance. J'allais certainement pas aller voir un cabinet de fiscalistes en France en leur disant « Regardez, j'ai récupéré ça au Luxembourg, je comprends pas grand-chose, aidez-moi ». Et donc je suis allé à une conférence au mois d'octobre 2011 à Paris, à laquelle participaient, je dirais, les pionniers en matière de lutte contre les paradis fiscaux, que ce soit des journalistes, des universitaires du monde entier qui étaient réunis là. Je leur ai dit « Voilà, j'ai accès à certains documents, j'ai besoin d'aide, connaissez-vous quelqu'un ?» Et ils m'ont dit « Il faut que tu ailles voir Richard Brooks. » C'est un ancien inspecteur des impôts britanniques, spécialisé dans l'imposition des multinationales, qui, dégoûté parce qu'il n'arrivait pas à faire en tant qu'inspecteur des impôts dans les années 2000 en Grande-Bretagne, est allé travailler dans l'équivalent du Canard enchaîné britannique, un journal qui s'appelle Private Eye. Et lui, je l'ai contacté, je l'ai appelé, je lui ai dit « il faut qu'on se voit ». Il ne me connaissait pas du tout. Au début, c'était très froid, genre « pourquoi ?» Je lui ai dit « je peux pas vous en parler au téléphone, il faut qu'on se voit ». Et donc je suis allé le voir à Londres, et je me souviens de son regard quand j'ai commencé à ouvrir les pochettes dans lesquelles j'avais amené quelques accords de société, et ses yeux se sont éclairés, il a fait « ah, mais c'est pas possible. » Ce qui m'a surpris, c'est le côté flagrant, sans vergogne, de ces arrangements avec les luxembourgeois. On dirait que les entreprises avouent tout au fisc luxembourgeois comme à un prêtre, en échange d'un gros cadeau fiscal. Ça, ça me surprend, d'agir aussi cyniquement, aussi délibérément. Pour dire les choses très simplement, vous êtes une multinationale, vous avez des filiales un peu partout dans le monde et vous allez faire en sorte de déplacer vos profits dans des endroits où ils seront peu taxés et parallèlement de déplacer vos pertes dans des endroits où vous êtes le plus taxé. C'est-à-dire, j'ai des profits, je ne veux pas qu'ils soient taxés autour de 25%, je préférerais qu'ils soient taxés à 1%, voire moins. Et donc, je vais m'arranger pour que ces profits soient exfiltrés vers l'endroit où ils seront moins taxés. En l'occurrence, au Luxembourg, les autorités fiscales permettaient ce type de montage de manière régulière et, on va dire, industrielle.
Au Luxembourg, PricewaterhouseCoopers va se charger de l'enregistrement avec les autorités fiscales luxembourgeoises. Elles vont rencontrer le représentant du fisc là-bas. Souvent, d'après ce qu'on entend, autour d'une bonne table, apparemment, c'est comme ça qu'on fait affaire là-bas. Ensuite, l'agent des impôts à son bureau sort son tampon et approuve le montage.
Les cabinets d'audit, dans ce qu'on a découvert, se sont substitués aux services fiscaux luxembourgeois. Ils mâchent le travail des services fiscaux. Ils vont monter la totalité du dossier, vont l'amener aux services fiscaux pour validation. Et cette validation, nous, on a pu l'estimer parce que on voyait le nombre d'accords qui étaient signés en une seule journée par les services fiscaux. Il est absolument impossible qu'une personne puisse valider autant d'accords en une seule journée. Ils avaient même le tampon et le papier en tête des ministères, les cabinets d'audit. C'est-à-dire qu'ils pouvaient mettre en page le document lui-même. Et le document ne passait devant les services fiscaux que pour signature vraiment formelle et un coup de tampon. Comme beaucoup de paradis fiscaux, le Luxembourg, c'est le paradis des boîtes aux lettres. Alors une boîte aux lettres, c'est une boîte aux lettres où vous allez avoir des dizaines et des dizaines de sociétés hébergées. Ces sociétés n'ont d'existence que le nom l'adresse, éventuellement un numéro de téléphone, mais rien de plus. Dans le langage des inspecteurs des impôts, on appelle ça de la substance. C'est-à-dire, est-ce que votre société, il y a des gens qui y travaillent, il s'y passe des choses, ou est-ce que vous n'êtes qu'une coquille vide avec un nom sur une boîte aux lettres et rien d'autre ? Et quand on est allé voir ce qui se passait, très souvent, ce ne sont que des coquilles vides. Par exemple, on avait les sociétés détenues par le groupe Wendel, dont Ernest-Antoine Seyer, ex-chef du patronat français, détenait la propriété. Ces sociétés-là, au Luxembourg, elles étaient hébergées. Eux, c'était, je dirais même pire, c'était dans un immeuble d'habitation au rez-de-chaussée. Et en regardant à travers les fenêtres, on pouvait voir des étiquettes sur les téléphones avec le nom des différentes sociétés, mais il n'y avait personne derrière les téléphones, il n'y avait personne derrière les ordinateurs, et il y avait juste une assistante qui était là, et un directeur financier qui venait de Paris et qui repartait dans la journée pour la France, quoi.
Pour savoir ce qu'il se passe au Luxembourg, c'est Paris qu'il faut appeler.
Je voulais savoir combien il y a de personnes employées au Luxembourg, là, au 115-117 avenue Gaston-Liré.
Alors, le bureau de Luxembourg, il compte une demi-douzaine de salariés. Et il y a 30 collaborateurs de Wendel qui travaillent régulièrement.
C'est juste qu'on voit beaucoup de bureaux vides, donc c'est tout, c'est un constat, c'est rien d'autre.
On avait l'éditeur Pearson, qui est quand même le propriétaire du Financial Times, qui est, je crois, le premier ou le deuxième éditeur au monde, qui détenait une société dans une cage d'escalier près de la gare de Luxembourg. Il y avait 21 autres sociétés avec eux. Et donc c'est ça qui vous permet d'avoir une existence légale au Luxembourg, et c'est ça qui vous permet de renvoyer vers ces structures luxembourgeoises de l'argent. Alors comment est-ce que vous renvoyez de l'argent ? Une des manières les plus simples, eh bien, c'est tout simplement de prêter de l'argent depuis la société du Luxembourg à votre société en France. Et quand je dis de l'argent, c'est beaucoup d'argent. On a vu des prêts, nous, dans des montages, des milliards d'euros prêtés. Donc des milliards d'euros prêtés, ça fait des dizaines de millions d'euros d'intérêts à rembourser. Et chaque fois que la société française doit rembourser des intérêts, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle les déduit de sa feuille d'impôt en France. Et comme le système est très très bien fait et que les montages sont extrêmement malins au Luxembourg, eh bien, au Luxembourg, ces intérêts ne sont pas considérés comme des profits.
Nos histoires d'impôts luxembourgeois vous assomment ? Allez donc faire un tour à la pharmacie. Vous y trouverez du synthol, de l'augmentin, de l'antipaludéen. Tous ces produits, et bien d'autres encore qui nous veulent du bien, sont fabriqués par le groupe GlaxoSmithKline, GSK, géant britannique du médicament, troisième labo pharmaceutique au monde. Devinez quoi ? GSK aussi a des filiales au Luxembourg. Monsieur le ministre luxembourgeois, il en pense quoi des arrangements fiscaux de GSK et de leurs conséquences sur les finances publiques anglaises ?
Le ministre des Finances, quand il s'assied en face de nos caméras, qui commence à répondre à Élise Lucet, il n'a pas conscience de l'interview qu'il va devoir réaliser. Il est persuadé qu'il parle à la présentatrice du journal de 13h en France.
Au moment de l'interview, Élise Lucet présente le journal de 13h sur France 2. Elle est aussi productrice et présentatrice de Cash Investigation.
Quand les fameuses ATA hein, ou tax rulings permettent, comme c'est le cas pour GSK, parce que ça a été le cas, hein, de ne pas payer 40 millions d'impôts dans leur propre pays d'origine, ça pose problème, on est d'accord ?
Oui.
Ça pose problème.
Oui, je suis d'accord.
Et Luc Frieden, à l'époque, donc, est ministre des Finances. Je pense qu'il est très très fier de parler de ce qui se passe au Luxembourg, parce que pour lui, Luxembourg, c'est une place financière mondiale très très importante. Dès qu'on emploie les termes paradis fiscaux, il s'en offusque.
Parce que la création de sociétés filiales n'est pas en soi illégale.
Ah non, non, non. Si ce sont des sociétés qui sont dénuées de toute substance réelle, ça pose question.
Oui.
Lui a passé, je dirais, une heure un peu compliquée face à nos caméras. Il était très souriant au début, il transpirait à la fin. Sa performance a été jugée assez pitoyable par les médias luxembourgeois eux-mêmes. Et je pense qu'ils ont vraiment réalisé l'ampleur de notre enquête quand elle a été diffusée. C'est-à-dire, oui, on n'était pas parti de Ondi, on n'était pas parti de trois bouts de papier. On avait une masse de documents qui nous permettaient de prouver ce qu'on racontait. Dix jours après la diffusion du reportage, quelqu'un me contacte anonymement en me disant « Vous n'avez qu'effleuré le sujet, il fallait parler de telle entreprise, moi je peux vous apporter bien plus de documents ».